Campagne, bonjour. Dernière étape nivernaise avant de passer chez le voisin Côte d'Orient la semaine prochaine. Si le mois de novembre est le mois de l'économie sociale et solidaire, il est aussi celui de la rénovation de l'habitat dans la Nièvre. Nièvre Rénove est une création du département avec l'appui du Fonds européen FEDER, le Fonds européen de développement régional, l'ADEME, la région Bourgogne-Franche-Comté. Nièvre Rénove est d'abord un service gratuit qui permet à tout particulier de bénéficier d'un diagnostic de son logement, de recherche d'entreprise dans le cadre d'un projet de rénovation et d'une étude de financement. À ce sujet, une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat est possible en fonction des revenus des personnes et des ménages. Nièvre-rénov.fr pour l'adresse. Au programme de ce vendredi, la coopérative des savoirs du pays Nivernais Morvan, présidée par Thierry Letrot. À lire d'ailleurs l'article complémentaire de Géraldine Martin dans les pages numériques de La Vie. Et puis Régis Lindeperg, co-président de l'association Adrets Morvan, qui propose une sylviculture douce et respectueuse de la nature.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Thierry Letrot, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Thierry, vous êtes président de la coopérative des savoirs.
Oui,
qui exerce ses activités dans l'ensemble du pays nivernais Morvan. Vous êtes basé à Lorme. C'est une université populaire, mais alors le modèle coopératif associé à l'université populaire, c'est une chose assez rare.
Oui, alors on a coutume de dire, nous, la COP c'est nous. C'est-à-dire c'est un nous qui inclut tous les habitants du pays, tous ceux en tout cas qui veulent s'y intéresser et qui ont envie de coopérer à ce projet.
Quel type de savoir on peut échanger chez vous ?
Alors précisément tous les savoirs. C'est-à-dire que nous on est parti de l'idée que le savoir est une richesse, le savoir c'est aussi un pouvoir, et le savoir c'est quelque chose qui est très très répandu et très partagé, même si des fois on ne le sait pas. Souvent quand on demande aux gens ce qu'ils savent ou ce qu'ils savent pas, ils commencent par dire qu'ils savent pas grand-chose. Et nous on est convaincus du contraire, on est convaincus que ce territoire est riche de savoir, et riche d'ignorance aussi, parce que les ignorances, si on les transforme en envie d'apprendre, eh bien ça devient quelque chose de très énergisant, je dirais.
Il y a plusieurs actions que vous menez, et entre autres, les rencontres de la COP sont instaurées dans la continuité de l'université des bistrots qui avait été lancée par le théâtre Éprouvette et Jean Bochco, que j'embrasse en ce moment parce qu'il est en train de se battre contre la maladie, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Les rencontres, c'est quoi ?
C'est assez multiforme, hein, c'est-à-dire que ça peut prendre la forme, comme le faisait Jean Bochco et avec le théâtre Éprouvette dans le cadre de l'Université des Bistrots, ça peut prendre la forme d'une espèce de conférence partagée dans un lieu public, alors bistrot ou resto ou café associatif, peu importe. Ça prend aussi des fois la forme d'une sortie ou d'une balade. Par exemple, on fait tous les ans, depuis quelques années, une rencontre de la COP autour du Brame du Cerf. Alors là, ça commence dans la forêt, puis ça finit dans une cabane de chasse. Mmh. Voilà. Et ça touche en fait tous les sujets qui nous intéressent, qui intéressent les coopérateurs. Les rencontres de la COP sont aussi un petit peu en train de muter, on appelle ça en groupe de construction de savoir. C'est-à-dire que si un sujet intéresse quelqu'un, il peut dire, ben moi voilà, je voudrais creuser cette question-là. Et puis, avec d'autres, rassembler un peu ce qu'on sait là-dessus. Et puis, à un moment donné, peut-être aller chercher aussi des compétences ou des savoirs à l'extérieur. C'est comme ça qu'on a travaillé, par exemple, sur la question de l'état d'urgence. Parce qu'un jour, il y a un adhérent de la COP qui a dit, ben voilà, moi, je suis inquiet, je comprends pas tout ce qu'on nous dit à la radio là-dessus. Et j'aimerais comprendre. Puis, en ce moment, on a un deuxième sujet, comme ça aussi, qui nous intéresse bien. C'est l'accueil des nouvelles populations. Enfin, déjà, ne serait-ce que comprendre ce qui se passe, voilà, c'est ça.
Et chaque année, donc, vous organisez la Fête des Savoirs pour la 6e édition. 130 initiatives de tout le pays, Nivernais, Morvan, ont été présentées. Ce qui est quand même rare, vu la densité, 14 habitants au kilomètre carré.
Oui.
C'est pas mal. Comment vous expliquez cette dynamique quand même très spécifique à votre pays ?
Alors, il y a une vie associative très riche dans le Morvan, hein, depuis longtemps déjà. Et puis aussi parce qu'on a vraiment cette volonté de faire vivre l'éducation populaire, on y croit vraiment, hein. Je crois que les gens de la COP, c'est des militants quelque part, hein. ils croient à cette idée que le savoir, il doit être accessible pour tous, par tous, tout au long de la vie, puis parce que c'est aussi beaucoup de plaisir. Il y a la notion de plaisir qui est très centrale.
Et vous animez donc un réseau d'échanges réciproque de savoir, donc on peut donner et on peut prendre.
L'idée, elle est vraiment toute bête. C'est-à-dire qu'on entre dans ce réseau avec une offre de savoir, je sais jouer de l'accordéon, et une demande de savoir, je voudrais apprendre à élever des abeilles. Voilà. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de hiérarchie, on peut entrer avec un savoir qui va se transmettre en une fois, faire une recette de tarte aux pommes, je dis n'importe quoi, hein, et avoir en échange une demande qui va être peut-être de plus longue haleine, apprendre à parler le néerlandais. C'est très utile de parler le néerlandais dans le monde.
Ben oui, j'ai appris ça, oui.
Oui, absolument. On va mettre ces demandes et ces offres en réseau. Ça va créer de la rencontre, des fois des liens amicaux. Ça va peut-être créer quelque chose de collectif aussi. On ne sait jamais trop à l'avance ce que ça va créer. En tout cas, ça va créer du lien social, ça c'est évident. Et ça augmente aussi la compétence collective du territoire. Et encore une fois, ça crée des bons moments, des moments de rencontre, de plaisir. Et c'est très souple, c'est très malléable. C'est-à-dire que ça peut se passer chez l'un ou chez l'autre, ça peut se passer dans un centre social, ça peut se passer dans une salle municipale, ça peut le passer dans le fond de mon jardin. L'important, c'est que la rencontre ait lieu et qu'il y ait effectivement un échange basé sur le savoir. Pas sur le service, hein, c'est pas un sel, c'est autre chose, c'est un savoir. Mmh. Et on a remarqué quelque chose, c'est que qui donne son savoir s'enrichit. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est gagnant-gagnant.
Un site coopérative des savoirs, vous avez trouvé le lien à notre page, ainsi que la page Facebook COP des savoirs, qui fait ses propositions sur l'ensemble du pays Nivernais-Morvan. Merci Thierry.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Nous avons reçu tout à l'heure, donc c'est tout chaud, la lettre de Geneviève, qui nous propose un petit coup de pouce au profit de deux éleveurs sous le nom de Loca Marmite, Xavier Agneau, éleveur installé depuis 2004 près de Saint-Léger-sous-Beuvray, c'est-à-dire au pied du mont Beuvray du site magnifique de Bibracte, et également Chloé Pimon, qui est également éleveuse bio avec ses brebis. Le site est impressionnant, il y a 60 chevaux, 60 vaches, 100 moutons sur les 180 hectares de prairies naturelles bio. Le projet va s'appeler Du pré à l'assiette. Il s'agit d'un atelier de transformation, de découpe, de création de plats préparés. Et sur le site plateforme de financement participatif Mimosa, qui est spécialisé dans les projets agricoles, vous allez trouver le lien pour participer, si vous le souhaitez, à l'émancipation de ce gros projet du pré à l'assiette à Saint-Léger-sous-Beuvray. Dans quelques instants, vous aurez le lien à nos pages d'émission. Régis Lindepergue, bonjour.
Bonjour Philippe.
Régis, vous êtes coprésident de l'association Adrets-Morvan, à l'écolieu du Carouège, où est-ce exactement ?
C'était à Vauclay. Vauclay, c'est dans le Morvan et c'est au carrefour de la route qui fait Corbigny-Saulieu et Lormes-Château-Chinon.
Mmh. Adrets-Morvan est né en 2012 à une époque de lutte contre un projet industriel de méga-scierie.
Absolument.
Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se profilait chez vous ?
En fait, il y avait un projet d'une très grosse scierie, ça aurait été une des plus importantes de France, avec couplé un incinérateur qui brûlait aussi beaucoup de déchets de bois, jusqu'à 75%, donc en fait c'était très polluant aussi. C'était une usine de résineux et ça aurait eu un gros impact sur la forêt. Ça aurait vraiment été l'usine de trop, avec 500 000 mètres cubes de bois, si en plus déjà aujourd'hui ils ont du mal à faire tourner les scieries existantes, donc ça aurait été un peu catastrophique. Mmh. Voilà. Je pense qu'à terme, elle aurait fait couler une des autres grosses scieries du coin, quoi.
Et grâce, alors certains diront à cause, mais grâce à vous, le projet est tombé à l'eau.
Alors, c'est pas que grâce à nous, mais c'est en partie grâce à nous, parce que nous, on est arrivés, en fait, il y avait déjà les habitants les plus près de la forêt qui étaient concernés. Donc, il y avait les habitants et d'autres associations qui ont engagé des actions en justice. Et nous, nous, on a informé la population sur la réalité du projet qui était quand même largement caché par les porteurs de projet.
Oui.
Et à un moment, on a occupé le terrain, à un moment où la préfète envoyait les bûcherons avec les gendarmes mobiles pour les protéger. Donc le lendemain, on a décidé d'occuper le terrain et de construire des cabanes. Donc on a fait une ZAD et on est resté 2 ans en attendant que la justice tranche. Et la justice a confirmé tous nos soupçons et a annulé la totalité du projet.
Et d'autant que vous aviez collecté 75 000 signatures. Et donc ce projet a été annulé par la justice. Après ces 2 années, donc vous avez quitté cette ZAD et vous avez décidé d'ouvrir un lieu, donc comme on l'appelle aujourd'hui, un écolieu. Que trouve-t-on dans cet écolieu ?
En fait, sur cette ZAD, il y avait plein de gens très différents qui se parlaient, donc ça crée comme une ambiance assez intéressante. Et on s'est dit, ce serait bien de conserver cette ambiance, et puis on s'est dit aussi, ce serait bien de faire un lieu pour faire avancer un peu l'environnement au quotidien par chez nous. Et donc, aujourd'hui, on a créé un bistrot-restaurant bio, et ainsi qu'une boutique bio couplée à des circuits courts en relation avec les producteurs bio du coin. Donc on y fait aussi pas mal de concerts, des spectacles, on fait beaucoup de conférences, notamment autour de la problématique forestière avec les cafés forêts, on fait aussi des cafés paysans, voilà.
Et la préoccupation de la forêt est toujours au centre, évidemment. Alors, chez vous, dans le Morvan, on est sur une forêt majoritairement privée, constituée majoritairement de feuillus, mais remplacée au fur et à mesure, et aujourd'hui de plus en plus rapidement, par du résineux.
Absolument. Aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est 50% de résineux et 50% de feuillus, alors qu'après la guerre, c'était quasiment 100% de feuillus, quoi. Enfin, le résineux était très limité dans certains endroits, dans les sommets. Mais en fait, c'est des méthodes un peu assez dramatiques, parce que quand on coupe une forêt de feuillus diversifiée, qu'on la remplace par du monoculture intensive de résineux, on n'a pas du tout la même biodiversité, on n'a pas du tout le même impact sur l'eau, sur l'air, sur plein de choses.
Oui.
En fait, on vit une industrialisation de la forêt comme ça s'est passé dans l'agriculture dans les années 70, avec tous les défauts qu'on leur connaît, et qu'on sait aujourd'hui que c'était quand même pas la bonne solution, alors qu'on est en train de faire exactement la même chose dans la forêt et personne ne dit rien, quoi.
Oui. Enfin, voilà. Et actuellement, vous travaillez donc avec un groupement forestier qui répond au bon nom du chat sauvage pour sauver les forêts de l'enrésinement. En un mot, une sylviculture douce correspondra à quoi, Régis ?
Il y a plein de méthodes de sylviculture différentes. La sylviculture douce que préconise le chat sauvage et que nous on préconise aussi, c'est une sylviculture dans laquelle on ne prélève pas plus que l'accroissement de la forêt.
Mmh.
Alors qu'aujourd'hui, la règle théorique, c'est on prend que l'accroissement de la forêt, sauf que ça se gère sur des massifs entiers. Par exemple, sur le Morvan, c'est des moyennes. En fait, il y a des endroits où la forêt n'est pas du tout touchée parce que c'est des petits propriétaires. Et voilà, donc on fait une moyenne générale et on dit... Mais en fait, le prélèvement aujourd'hui majoritaire chez nous, il se fait par des coupes à blanc. Hein. C'est-à-dire qu'on coupe la totalité de toute la forêt et on la remplace par des...
Ouais, absolument.
C'est quand même un système assez rustique, on va dire. Voilà. Alors que la sylviculture douce dont on parle, elle peut rapporter en plus autant d'argent sur le long terme. C'est ça qui est pire.
Alors, il y a deux liens avec Adrien Morvan, celui du site, celui de la page Facebook, ça apparaît à nos pages d'émission, et puis vous allez avoir aussi le lien avec le groupement forestier du chat sauvage aux mêmes pages. Merci Régis.
C'est nous qui vous remercions. Au revoir.
Au revoir. Le programme des carnets ainsi que du jeu des 1000 euros, au mois de décembre, nous commencerons par le Tarn, ensuite le Tarn et Garonne, un petit séjour du côté de Paris avant d'aller dans la Sarthe entre Noël et le Nouvel An. N'hésitez pas à nous écrire depuis ces lieux. Merci à Anne Lioreau qui réalisait les carnets, à Joël Levert qui leur apportait du contenu comme chaque semaine, aux techniciens et Sienne de France Inter qui vous les conduisait jusque dans les oreilles comme Valentin Azan aujourd'hui. Le jeu des 1000 euros, Nicolas Stouffle assisté de Yann Pailleret à Mou en Morvan, toujours dans la Nièvre.